Oui, alors nous sommes toujours avec Jean-François Gay, c'est la chronique Prendre la route pour encore quelques minutes. Jean-François, il y a quelqu'un qui m'a demandé, puisqu'on parlait de Mazda avant la pause, est-ce que Mazda a résolu les problèmes de rouille? Moi, je pense que oui.
Oh bien oui, ça fait longtemps de ça. C'est sûr que souvent, quand on parle de Mazda, que ce soit... On parle, à l'occasion, quand on parle à la radio, on a souvent un appel concernant la rouille. Je fais des chroniques, je reçois des courriels. Ça, écoutez, ça fait longtemps de ça, là. Ça fait une dizaine d'années. Et puis, je vous dirais que c'est réglé. Je dis pas qu'il peut pas avoir des cas, là, isolés. Mais, règle générale, là, ça fait longtemps. C'est d'histoire ancienne.
Est-ce qu'on a su pourquoi? Est-ce qu'ils ont, non, pas...
Bon, souvent, c'est
les matériaux utilisés.
La qualité du métal. Oui. Ouais, plus que, je pense, c'était plus la qualité des métaux utilisés que l'application de la peinture.
Ouais. Parfait. Nous allons parler d'abord à Mme Diane, je crois.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Diane.
Oui, bonjour. Moi, on est un couple dans la soixantaine, puis on ne voudrait pas mettre trop d'argent sur une voiture, mais on voudrait avoir une bonne voiture. Puis on se demandait qu'est-ce que vous en pensez de la Subaru Impreza.
On parle d'une voiture neuve, madame?
Une voiture neuve, oui.
Oui, ben est-ce que vous demeurez en région, vous? Vous restez en ville?
Non, on demeure en ville. On fait pas beaucoup de millage, mais on se promène beaucoup en ville.
Parce que l'avantage de la Subaru Impreza, on s'entend, c'est la traction intégrale, hein? Souvent, quand on achète une Subaru Impreza, c'est des véhicules qui sont très populaires, je vous dirais, en Estrie, dans la région de Sherbrooke, au Vermont. Il faut aller faire un tour dans l'État du Vermont aux États-Unis pour voir le nombre d'Impreza qui sont sur la route. Pourquoi? Parce qu'en hiver, ces voitures-là sont extraordinaires. Là, quand c'est glacé, quand c'est enneigé, on veut sortir de bancs de neige. Donc, si pour ces qualités-là, c'est une voiture que je vous recommande, oui. Vous regardez pour le modèle berline ou le modèle à haillons?
Hatchback.
Ça, en plus, ça fait... C'est, le haillon, quand même, le volume du coffre est intéressant. C'est pas aussi grand qu'un petit VUS, mais ça va vous dépanner si vous avez des objets là, à transporter. Et la seule rivale maintenant qui existe à la Subaru Impreza dans la catégorie des compacts, c'est la voiture qu'on a parlé tantôt, la Mazda 3, qui offre depuis 2019 la traction intégrale. Mais je vous dirais que la traction intégrale de Subaru... est sans égal. Donc, je suis persuadé, même j'ai pas essayé la Mazda 3 en hiver, je suis persuadé que la voiture doit être moins performante qu'une Subaru, là, qu'une Subaru Impreza dans la neige.
OK. Et puis, ça peut aller chercher combien à peu près? Parce qu'on ne veut pas mettre une fortune non plus sur une voiture, parce qu'on est déjà dans notre retraite, tout ça, puis...
Ben, l'Impreza, madame, ça commence aux alentours de 20 000 $ là, si vous y allez avec le modèle d'entrée de gamme.
Oui, c'est ça, d'entrée de gamme.
Entrée de gamme, là, à 20 000, vous allez avoir la boîte manuelle, par contre. Si vous voulez...
Boîte
automatique, mais là, vous allez être obligé de dépenser peut-être un 1 500 $ à peu près de plus. Boîte CVT, qu'on appelle, là, qui est similaire à une automatique. Ouais. Mais dites-vous qu'à 20 000, là, c'est le modèle d'entrée de gamme. Par contre, vous avez le climatiseur à ce prix-là, il va être électrique. Si vous voulez un petit peu plus de luxe là, avec la boîte automatique, c'est un véhicule qui va vous coûter peut-être 24-25 000 $ plus les taxes.
OK. Bon, ben je vous remercie. C'est bien gentil, monsieur Jean-François.
Merci.
Ah, il est toujours gentil, lui, madame. Tout le temps, tout le temps. Ben, merci beaucoup, madame, d'avoir téléphoné. Passez une très bonne nuit. Jean-François, un auditeur, question d'un auditeur, ça me rappelle des souvenirs. Il a vu une Saab. Malheureusement, il m'a pas donné l'année du véhicule. Il dit que c'est le modèle Aero. Et ouais. À peu près, il dit 130 000 kilomètres.
Ouais.
Bon, Saab est complètement disparu de la map depuis déjà un certain temps. Moi, ça me rappelle des souvenirs parce que quand on me pose la question, quel est le meilleur véhicule que tu as eu? Je sais que t'es pas d'accord.
Oui, je suis d'accord.
Mais, moi, je dis réponds, ma Saab, justement une Saab Aero que j'ai eu pendant peut-être deux ou trois ans. Et j'ai adoré ce véhicule-là. Mais j'ai jamais entendu beaucoup de commentaires très positifs sur la Saab. Alors cet auditeur, je sais pas si c'est possible de me réécrire, mais donc il a vu qu'il y avait une Saab Aero.
Faut être prudent.
Je pense que oui.
Faut être prudent, là, tout simplement parce que vous savez qu'une compagnie, quand une marque disparaît là, d'un pays, d'un continent, on pense à Saab, on pense à Suzuki qui existe encore, on pense à Pontiac, tout ça. Les manufacturiers s'engagent à garder des pièces de disponibles pendant 10 ans. Dans le cas de Saab, si je ne me trompe pas, cette compagnie-là a disparu, je pense, en 2008. Peut-être, là, ça sera vérifié.
Dans ces eaux-là.
Mais ça fait plus que 10 ans. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que...
Mais demain matin, là, mettons, j'ai encore une Saab. Où est-ce que je vais pour les réparations et tout ça?
Bien, il y a des garagistes, des garagistes qui sont spécialisés.
Ouais, indépendants, on peut dire.
Ben oui, garagistes indépendants. Ouais. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui spécialisent, hein, que ce soit des produits Volkswagen, j'en connais un autre qui est Nissan, l'autre qui est Jaguar, Volvo. Dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il existe des concessionnaires qui sont spécialisés dans les sables. Ils doivent en avoir de moins en moins parce que il y a de moins en moins.
Non, il n'y en a pas tellement. Non. Ouais. J'en vois de temps en temps, mais pas très souvent. Est-ce que on les fabrique encore ailleurs dans le monde ou c'est complètement
non,
fini?
Non, c'est arrêté.
Complètement.
Il fait
c'était suédois, ça?
C'était suédois. Il n'y a pas longtemps, on parlait que les voitures étaient pour revenir en mode électrique. Il y avait un constructeur chinois qui a mis la main sur le nom, sur les usines. Puis il y avait une bataille aussi, hein, au niveau du nom Saab. Ça, ça n'a pas aidé. Parce que Saab fabrique encore des avions. Hein.
D'abord, oui, ben ça, j'allais dire, hein? Des avions...
Des avions de chasse, notamment.
Des avions de chasse, oui.
Et la compagnie voulait commercialiser des voitures sous le nom Saab, parce que c'est un nom connu. Mm-hmm. Puis il y a eu des petits problèmes là au niveau...
juridique.
Des problèmes juridiques. Alors, je connaissais le fond de l'histoire il n'y a pas longtemps, mais je ne voudrais pas m'avancer.
De toute façon, il y en a plus.
Mais soyez prudents. Avant d'acheter une Saab, là, monsieur, même si elle a 130 000 km, même si elle est très propre, tout ça, les pièces sont de plus en plus rares. Donc, allez faire inspecter ce véhicule-là, puis trouvez-vous un garagiste spécialisé dans le domaine qui va vous confirmer qu'il peut avoir facilement des pièces. C'est sûr que au niveau de la tôle, hein, au niveau de la carrosserie, il n'y aura pas de problème. Mais c'est peut-être souvent des pièces mécaniques, des pièces là qui sont vraiment atypiques là du produit Saab. Parce que, tu sais, que ça soit une batterie, des pneus, tout ça, il n'y a pas de problème, des phares, tout ça, mais il y a des pièces mécaniques, plus qu'au niveau de la carrosserie, qui vont peut-être être plus difficiles à trouver à un moment donné.
Parfait. Un autre auditeur me demande, parce qu'on parle souvent de contraventionexpert.ca, je sais que les gens savent que tu es impliqué là-dedans. Le monsieur veut savoir qu'est-ce que c'est exactement. On s'en doute un peu, mais c'est surtout pour les gens qui veulent contester des contraventions.
Hein. Ben, Contravention Expert, ben, c'est un bureau d'avocats, si on veut. On est spécialisé dans les contraventions, les infractions routières, les niveaux aussi de l'alcool au volant. On pense aussi à des gens qui peuvent être accusés, là. C'est sûr que c'est pas très, très sympathique, mais à des cas de rage au volant. Parce que des fois, Jacques, faut savoir que il y a toujours deux versions à une histoire. Souvent, on va lire...
Qui dit vrai?
Ben, souvent, on va lire les journaux, on va voir, ah, là, cette personne-là, t'es accusé de rage au volant, t'es accusé d'alcool au volant, t'es accusé de haute vitesse, accusé de ça, accusé de ça. Mais, avec l'expérience, moi, je suis pas juge, là, mais je sais que les juges, des fois, hein, ils se rendent compte qu'il y a toujours deux versions à une histoire.
Eh oui.
Des fois, ça paraît mal au début. Oups, là, t'entends un témoin, oups, t'en entends un autre. Là, des fois, ça rétablit les faits. Et bon, cela dit, nous, on est spécialisés là-dedans. Donc, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, excusez-moi, vous nous appelez, vous nous écrivez. Et puis
mais la personne qui m'a envoyé ce petit message se demande également, parce que ce qui fait peur aux gens aussi, c'est souvent le processus qui est parfois très long. Alors, lui, il veut savoir, normalement, quand vient le temps de régler une contravention ou de contester une contravention, c'est un processus qui est long. Faut-tu aller devant le juge 22 fois?
Faut-tu
rencontrer l'avocat ad vitam aeternam? C'est long?
C'est pas long. T'sais, une contravention, on s'entend que des gens sont accusés au criminel pour un alcool au volant.
Il y a des cas plus lourds.
Conduite dangereuse, il faut rencontrer des clients. Mais au niveau des contraventions, je vous dirais, moi, première étape, vous plaidez non coupable. Mm-hmm. Vous avez 30 jours. Écrivez jamais votre version des faits sur une contravention. On va garder les faits en négociation avec le procureur de la poursuite ou encore devant le juge. Une fois que vous avez plaidé non coupable, vous allez recevoir dans les mois suivants un avis d'audition, c'est-à-dire une date de cours. À ce moment-là, vous communiquez avec nous ou un avocat et ces gens-là vont faire des démarches auprès de la poursuite pour obtenir de la preuve. Parce que les gens reçoivent toujours, c'est une contravention qu'ils reçoivent. Mmh. Mais les policiers, eux autres, de leur côté, ils remplissent un rapport, on appelle ça le rapport abrégé. Ça, c'est leur version des faits, puis il va y avoir aussi, admettons, c'est une contravention de, je sais pas moi, de vitesse, on va avoir la calibration du radar, on va avoir aussi la distance de captation, etc., etc. Ça va nous permettre de voir, en comparant ça avec la version des faits du client, voir s'il y a une défense possible. À ce moment-là, s'il y a une faille dans la preuve, on peut tenter une négociation avec la poursuite pour trouver un arrangement qui va satisfaire tout le monde. Sinon, ben, si la personne désire d'aller devant le juge, bon, il ira, mais on tente d'éviter le plus souvent que possible les procès. Mm-hmm. On mise davantage sur la négociation.
Parce que ben, justement, c'est ça qui inquiète en sous-question. L'auditeur me dit, moi, j'ai pas très chaud à l'idée de me présenter en cours. Est-ce que ceux qui décident de contester une contravention doivent obligatoirement se présenter en cours ou peuvent être représentés par leur avocat?
Étant donné que c'est une accusation pénale, hein, c'est un dossier pénal, vous pouvez être représenté par avocat, vous n'êtes pas obligé d'être présent. La seule raison pourquoi vous allez être obligé d'être présent, c'est s'il y a un procès. Mais si vous plaidez, si vous changez d'idée éventuellement, vous voulez plaider coupable, vous n'êtes pas obligé de vous présenter.
Est-ce que ça va souvent jusqu'au procès?
Ben, je vous dirais, ça dépend des municipalités. Hein, ça dépend.
Il y en a qui sont plus zigonneux que d'autres.
Il y a des procureurs qui sont moins enclins à vouloir négocier. Mm-hmm. Peut-être aussi qui ont des directives aussi de, ouais, de la ville. Mais je vous dirais, règle générale, c'est rare que ça se rend en procès. Il y en a. Parce qu'à un moment donné, des fois, les gens se veulent tout simplement gagner du temps parce qu'il y a des points qui vont revenir. Puis comme ça, ben, ils vont sauver le permis de conduire. Mm-hmm. Puis ceux qui n'ont jamais eu de contravention, ils disent, ah, encore la justice, blablabla. Oui, mais écoutez, là, il y a des gens qui font 50, 60 000 kilomètres par année. Ces gens-là sont plus susceptibles d'avoir des contraventions. Si vous faites seulement 10 000 kilomètres par année ou moins, là,
ben, les risques sont moins
ça donne rien hein. De critiquer les autres qui ont des contraventions parce qu'eux s'exposent. Les autres, ils sont pas sur la route, ils peuvent pas avoir de ticket.
Parfait, maître. Merci de ces précisions.
Ça fait plaisir.
Et respectons les lois, tout ça. Et il n'y en aura pas de problème.
Bien dit. C'est bien dit, ça, Jacques. Bonne semaine.
Puis tu feras d'autres choses. Merci.